Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Vous allez être à l'écoute d'une émission qui s'appelle Histoire d'en savoir plus, en compagnie de deux historiens, en tout cas plutôt de deux férus d'histoire. Christophe Ferré, auteur d'un livre très récent qui est paru il y a quelques semaines, qui s'appelle Les Nouveaux Mystères de Chartres, et de Philippe Frétinier, que les auditeurs de Radio Grand Ciel connaissent très bien, puisqu'il conduit plusieurs émissions à caractère historique, à la fois sur l'histoire de l'art français. Et puis aussi autour de la cathédrale, puisque c'est un spécialiste également de notre cathédrale, ce que Christophe Ferré est aussi au travers de son dernier ouvrage, et d'un ouvrage plus ancien aussi, qui, là, sous la forme d'un roman policier, tournait autour des mystères déjà de Notre-Dame de Chartres. Alors, peut-être qu'on peut commencer, Christophe Ferré, par vous demander ce qui a motivé pour vous l'écriture de ce texte composite, qui reprend donc un ensemble de questions autour de la cathédrale, des questions anciennes, des questions aussi beaucoup plus récentes, et le lien que ce livre entretient avec ce premier roman policier que vous aviez écrit il y a maintenant quelques années et qui avait connu évidemment un succès tout à fait remarqué dans notre bonne ville.
Alors bonjour à tous. Les Nouveaux Mystères de Chartres, qui viennent d'être publiés, ont été écrits après un certain nombre de questions que m'ont posées les lecteurs de La Révélation de Chartres, devenue en poche La Prophétie de la Cathédrale. Et ces questions consistaient à me demander à chaque fois qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai dans mon roman. Parce que dans toute fiction, il y a des choses réelles, il y a des choses évidemment totalement inventées par l'écrivain. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre, Les Nouveaux Mystères de Chartres, pour essayer de dire ce qui était vrai et ce qui l'était moins. Mais j'ai ajouté à certains mystères, d'autres mystères que j'ai découverts en faisant des recherches et que je ne connaissais pas jusque-là. Et dans ce petit livre où je déroule 28 mystères, petit clin d'œil à l'Eure-et-Loir, évidemment, il y a beaucoup de choses que le grand public ne connaît pas.
Donc on peut préciser aussi que ce livre que vous avez écrit donc très récemment est publié par le même éditeur que votre premier roman policier, donc, et que c'est une juste continuité. Qu'est-ce que vous souhaitiez par ailleurs relever comme mystère en premier lieu? Parce que quelles ont été les questions qui vous ont été principalement posées à l'issue de l'écriture du roman policier?
Alors, dans le roman policier, j'écris que la profession de foi islamique tronquée, la moitié de la profession de foi islamique se trouve dans le grand vitrail de Chartres sur la façade occidentale. Et beaucoup de gens m'ont dit que j'avais inventé ça, que c'était du domaine de la fiction. Il ne s'agit pas d'une fiction, il s'agit d'une réalité. Il y a bien serti dans des dinars musulmans la profession de foi islamique en arabe. Alors je vous l'ai dit en français. Il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique. Mahomet n'est pas cité, je rassure certains auditeurs. Alors, la question que je me suis posée en écrivant mon roman et en écrivant Les Nouveaux Mystères de Chartres, pourquoi y a-t-il la moitié de la profession de foi islamique gravée dans l'un des vitraux les plus célèbres du Moyen-Âge, un vitrail qui date du XIIe siècle. Il est sur la façade occidentale qui date en grande partie du XIIe siècle. Alors pourquoi? On peut en discuter à l'antenne.
Ah oui, bien sûr.
Découvrir une interprétation ou plusieurs interprétations dans mon livre.
Le mystère qui peut-être a le plus surpris dans un bâtiment qui est iconique, qui est représentatif évidemment du monde chrétien, tout d'un coup, une phrase en arabe qui est une profession de foi. Alors Philippe Frétinier, peut-être sur ce sujet, sur ce vitrail et sur cette profession de foi.
On commence d'emblée sur une sorte de désaccord. Mais avant, je veux quand même vous demander de préciser dans quel endroit du vitrail, qui était le vitrail de l'enfance, la première partie de la vie du Christ, À quel endroit vous avez vu cette citation arabe?
Alors, on découvre cette citation dans les dinars portés par les rois mages, par les trois rois
Oui.
mages.
C'est donc dans le troisième registre, c'est-à-dire la troisième rangée à partir du bas.
Alors, on peut peut-être pour les auditeurs préciser l'endroit exact
Ben
où se trouve ça.
le vitrail central de
Oui, c'est vitrail central,
de
le
la
grand
façade du
vitrail
portail
central.
royal. Alors, là-dessus, je vais être très très précis. Je ne sais pas quels historiens disent que c'est une phrase qui dit ce que vous avez dit, parce que il se trouve, et c'est corroboré par plusieurs autres historiens, qu'en 1918, ce panneau a été démonté et qu'il y a trois lettres. Il a été examiné par un orientaliste, M. Denizard, pour ne pas le nommer, et il a, après une longue analyse avec le vitrail, le morceau de vitrail devant lui, il a estimé que c'était des caractères similaires à des caractères arabes. C'est d'ailleurs confirmé par des ouvrages qui font référence, entre autres la fameuse monographie de la cathédrale de Chartres qui doit dater de 1929 ou quelque chose comme ça, du chanoine de la Porte et d'Étienne Houvet. Étienne Houvet pour les photos et le chanoine de la Porte pour les textes. C'est une monographie en 12 volumes et il y a 4 volumes consacrés aux vitraux, un volume de texte et un volume de planches. Donc, le chanoine de la Porte, qui était un grand érudit, corrobore, peut-être même l'a-t-il rencontré, les observations de M. Denisard. Et c'était déjà par un spécialiste d'archéologie chrétienne du Moyen-Âge, un certain Durand, qui a publié une monographie de la cathédrale de Chartres en 1881. Et c'est confirmé aussi par un autre archéologue très réputé qui s'appelait Didron, qui de mémoire a vécu entre 1801 et 1867, si ma mémoire est bonne. Et donc, j'ai une longue pratique des lectures des historiens de référence ou historiens de l'art sur Chartres, et je n'ai vu aucun historien sérieux dire ce que vous venez d'affirmer.
Alors, quelle est la différence entre des caractères qui ressemblent à des caractères arabes et des caractères arabes? Là,
Ben,
je
si
ne
c'est
suis
des
pas sûr de
caractères qui
comprendre.
ressemblent à des caractères arabes mais qui n'en sont pas, ça ne permet pas de dire la phrase que vous avez dite. Voilà.
Alors, pourquoi un certain nombre de gens ont lu cette phrase
Ah ben, je ne
comme
sais pas, vous savez,
Katerina Stenou,
les gens pas
Katerina
sérieux, ça
Stenou.
court les rues, hein.
Moi, j'ai rencontré des historiens très sérieux qui m'ont dit que c'était bien la profession de foi
Ils ont pas.
islamique. Alors, tronqué, moi je ne lis pas l'arabe, alors je peux pas l'avoir lu en arabe, mais j'ai entendu des historiens, je l'ai lu dans des livres. Il y a par exemple un ouvrage qui a été publié par Katerina Stenou, par Le Seuil et l'UNESCO, avant l'an 2000. Et un livre qui s'appelle L'image de l'autre, la différence du mythe au préjugé. Et Katerina Stenou, à l'aide d'ailleurs de photographies qu'elle reproduit dans le livre, affirme qu'il s'agit bien de la profession islamique
Non, non, mais
écrite en arabe.
je vous
Voilà.
assure que
Alors,
non.
il y a peut-être un désaccord entre les gens.
Non,
Et
non, non, non. Il n'y a aucun
quand j'ai
désaccord parce que.
publié mon roman, j'ai senti qu'il y avait un désaccord entre les gens. Donc, ce que vous me dites n'a
Oui,
pas
c'est un
d'accord pas.
sujet qui, effectivement,
Il n'y a aucun historien.
c'est un sujet qui a fait couler un peu d'encre, qui a beaucoup fait
Oui.
parler, et qui, effectivement, alors on commence l'émission, effectivement, par un sujet un peu polémique, mais peut-être qu'on aura d'autres sujets, j'espère, à aborder.
Mais
En tout
c'est bien
cas,
que les gens
absolument, c'est toute la
ne
question,
soient pas d'accord. Ça
évidemment, toute la
permet
question de
d'en
l'histoire.
discuter.
Mais Philippe Frétinet, est-ce que vous pouvez nous préciser, donc, du coup, ce que pourraient être, alors, ces
Oui,
caractères,
alors,
hein?
je vais d'abord quand même préciser que tous les historiens de référence, je ne vais pas infliger aux spectateurs la longue liste, une bibliographie, mais aucun des historiens sérieux de référence sur la cathédrale de Chartres ne parle de cette histoire. Et encore une fois, il s'agit de caractères similaires à l'arabe. Donc, ça ne peut pas être les initiales d'une phrase en arabe. Hein. Donc, ça, c'est absolument certain.
Et que signifierait la phrase dans ce cas-là?
Mais cette phrase ne figure pas dans le vitrail, c'est ça que je suis en train de vous dire, puisque ce sont des caractères similaires à l'arabe, et non pas des caractères arabes.
Oui, alors quel
pourrait être justement pour vous dire cette question ?
C'est des caractères. Alors, ils ne veulent pas tout à fait rien dire, mais ils ne sont pas, en tout cas, on ne peut pas les associer à des mots ou à un sens construit par des mots valables.
Alors, selon cette hypothèse-là, Philippe Frétinier, pour essayer d'être un peu clair pour nos auditeurs, selon cette hypothèse-là, donc, où il ne s'agirait pas d'une phrase écrite en arabe, ça serait quoi ? Ça serait une espèce de simulacre, une espèce de dessin simplement, enfin.
Oui, non, mais c'est d'une certaine façon, mais indirect, c'est une référence à l'arabe. Mais je vais revenir sur la justification que ce soit des caractères similaires et pas des caractères arabes. Le programme iconographique des vitraux est défini à l'époque par le chapitre. Par les chanoines. C'est même pas l'évêque, hein, ce sont les chanoines qui définissent le programme iconographique. C'est vrai pour les vitraux et pour la statuaire. Et c'est très codé. C'est pour ça que d'ailleurs, pourquoi c'est codé ? Pour que tout le monde, en connaissant les codes, puisse reconnaître ce dont on parle. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est très rigoureux.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous sur ce point. Voilà,
pas seulement dans les codes, mais même dans ce que ça dit. Et évidemment, la base essentielle, c'est pas la seule, je vais préciser après pourquoi c'est pas la seule, mais la base essentielle, c'est la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Mmh. Là, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais il y a d'autres textes, il y a un vitrail que moi j'affectionne beaucoup, et je suis pas le seul, le vitrail du Bon Samaritain, c'est par exemple une exégèse de Bède le Vénérable, un moine anglais du 7e siècle. Donc, ce sont la Bible, puis un certain nombre de textes, en général des textes d'exégèse, ou aussi des récits de miracles, par exemple le Speculum Majus de Vincent de Beauvais, voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc ce qu'on a dû dire aux artisans, aux maîtres verriers qui ont composé le vitrail, c'était que les rois mages, ils viennent d'Orient. Bon, l'Orient, c'est le monde arabe, surtout pour les gens du Moyen-Âge. Donc, on fait des caractères qui ressemblent à de l'arabe, ce qu'on s'imagine ressembler à de l'arabe, parce que les gens qui ont fabriqué le vitrail au XIIe siècle étaient illettrés. Alors, ça n'a pas l'acception péjorative que ça a aujourd'hui, mais même les, par exemple, le maître maçon qui a initié le chantier de Chartres en 1194 et les maîtres maçons chefs d'équipe qui lui ont succédé par la suite n'étaient pas lettrés. C'est plus tard, parce que vu l'importance que prend la croisade, ce qu'on appelle la croisade des cathédrales, le maître maçon lui-même va devenir quelqu'un d'important. Il y a des histoires, j'ai déjà raconté, l'évêque de Reims qui vient sur le chantier d'Amiens pour débaucher les sculpteurs du calendrier zodiacal d'Amiens. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont importants, indispensables aux évêques qui veulent à chaque fois faire une cathédrale plus belle, plus grande, plus haute que la précédente. C'est pour ça que ça monte tout le temps. À Noyon, on est à 26 mètres de la hauteur de nef. À Amiens, on est déjà à 42 mètres. Hein. Donc, voilà. Donc, ça explique ça. Donc, les vitraillistes qui ont fait les vitraux, ils se sont inspirés de choses qu'ils ont peut-être vues. On pourra jamais le savoir. Mais en tout cas, ou de simili caractères arabes que des membres du chapitre, qui ne parlaient probablement pas l'arabe, ont pu faire, surtout au XIIe siècle, ont pu griffonner pour dire, voilà, on va donner l'impression, parce que ce sont des arabes, quoi. C'est des gens qui viennent de l'Orient. Parce que Orient et Arabie, pendant longtemps, dans l'imaginaire, ça n'a pas des frontières précises. Voilà l'explication. Mmh. Et donc, on insiste. Au fond, c'est un signifiant supplémentaire pour bien dire qu'il s'agit des rois mages, bien qu'ils sont facilement identifiables, ils sont trois, ils ont la couronne, ils sont représentés plusieurs fois, une fois avant la présentation à la Vierge, une autre fois après la présentation de la Vierge où ils s'en vont, il y a l'étoile du berger qui les guide, donc voilà, on accumule des signifiants pour bien se faire comprendre, parce que les vitraux ont plusieurs niveaux de lecture pour les, je vais pas les énumérer pour pas faire trop savant, mais ont plusieurs niveaux de lecture pour les gens lettrés. Et puis il y a plusieurs niveaux de lecture en fonction du public, c'est-à-dire qu'il y a les gens lettrés qui sont en général des clercs, et il y a le peuple qui est illettré dans son écrasante majorité, et qui entend les lectures de l'Évangile, les lectures des Écritures, et donc il retrouve ce qu'il a entendu dans les lectures, dans les vitraux. Voilà. Donc on accumule les signifiants pour bien faire passer le message.
Donc deux hypothèses sur ce mystère, ce premier mystère, mais on ne parlera pas que des mystères de la cathédrale, on va essayer aussi de parler de la cathédrale elle-même. En tout cas, ce mystère-là, deux interprétations, une interprétation qui serait une forme, Christophe Ferré, d'hommage à une religion proche, ou simplement un signifiant qui indique simplement le caractère oriental des rois mages lors de leur visite.
Mais j'insiste sur un point, c'est que les historiens que vous avez lus qui parlent de cette phrase en arabe, même si ce sont des historiens sérieux, ce dont je doute, parce que quand même il y a de quoi se poser des questions, ce sont des gens qui n'ont pas vérifié, qui se sont contentés de on dit, qui n'ont pas vérifié ce que moi-même j'ai vérifié, très simplement. Voilà,
je ne remets pas du tout en cause votre lecture.
Je vous ai donné mes sources.
Ben moi aussi, je vous en ai donné.
Non, mais il n'y a pas des sources. Vous citez des historiens qui disent que ce ne sont pas des sources, ça. Les sources, ben là,
si c'est... Ce sont des sources, parce qu'ils ont vérifié. Alors, je ne peux pas vous montrer le livre que j'ai sous les yeux, à la radio, mais il y a des photographies de ce dinar où l'historien Katerina Stenou, en l'occurrence, explique qu'il s'agit bien de la profession de foi islamique. Alors après, on peut peut-être la lire de différentes manières.
Non, ça ne se dit pas de différentes manières.
Alors, s'il vous plaît, tous les deux, on va clore sur ce débat, mais je trouve qu'il est assez intéressant qu'on commence par ça. J'espère qu'on va continuer par autre chose encore une fois, mais en tout cas, sur ce mystère, sur cette question, sur ces versets ou pas, sur ce dessin, cette représentation qui est un simple signifiant de l'Orient ou un hommage à une religion proche, en tout cas, chacun peut faire ses propres recherches, se faire sa propre idée. En tous les cas, ce que votre débat souligne assez, c'est que bien des siècles après sa création, la cathédrale de Chartres suscite encore beaucoup, beaucoup de passion. Et je crois que c'est un petit peu l'objet aussi de cette émission. Mais on ne va pas revenir sur ce sujet. Je crois que vous avez été tous les deux tout à fait clairs sur les hypothèses que vous avez pu formuler. En tout cas, bon, cette cathédrale qui suscite encore autant de passion...
C'est très bien.
Et c'est très bien, c'est tout à fait intéressant. Prouve à quel point elle est emblématique de quelque chose, d'un monde, elle est emblématique d'une architecture, elle est emblématique de l'histoire même dans laquelle nous sommes, nous, baignés, avec toutes les questions que le passé peut toujours soulever en permanence. On sait que le passé est toujours susceptible de changer en fonction des interprétations qu'on en fait, puisque de toute façon, la vérité en soi sera toujours un peu ailleurs. Mais en tout cas, là, c'est le signe que ce bâtiment a un caractère totalement exceptionnel, à la fois dans la passion qu'il suscite, mais aussi certainement dans toute sa construction. Alors, est-ce que, par exemple, si je vous pose la question suivante, qu'est-ce qui fait que cette cathédrale est aussi exceptionnelle, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que cette cathédrale, encore aujourd'hui, a un statut si particulier au sein même des autres cathédrales? Christophe Ferré, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Ben, il y a un premier point qui est incontestable, c'est une cathédrale, dans sa partie gothique en tout cas, qui a été construite extrêmement rapidement, environ 25 ans. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. D'autres cathédrales françaises ont été construites beaucoup plus lentement, la plupart n'ont pas été terminées. Donc ça, déjà, il s'agit d'une chose tout à fait incroyable. La deuxième chose, c'est que la cathédrale de Chartres est intacte à 90% environ par rapport à ce qu'elle était à la fin du XIIIe siècle. Alors, il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui ont été abîmées. Et là encore, il s'agit d'une chose tout à fait unique en France. Alors, il y a d'autres cathédrales très belles, mais Chartres est la cathédrale, avec un C majuscule, comme le disait Huysmans, la cathédrale par excellence, celle qui n'a quasiment pas changé, celle que voyaient les pèlerins du Moyen Âge. Donc là, nous avons deux motifs d'admiration, des choses qui fascinent encore aujourd'hui les pèlerins, les croyants, les non-croyants, et c'est pour ça qu'elle est connue dans la France entière et même dans le monde entier.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'en gros, cette cathédrale est exceptionnelle parce que elle a suscité un investissement d'emblée extrêmement fort pour pouvoir être construite dans un délai extrêmement court, qu'elle a aussi une intégrité assez peu comparable à celle de ses cousines, et puis qu'elle nous permet un voyage dans le temps, puisque ce que nous regardons, c'est ce que regardaient nos ancêtres d'il y a 8 siècles maintenant.
Oui, à peu près, oui. Alors même s'il y a eu des changements, la toiture a brûlé, donc celle que nous
Oui.
voyons date du 19e siècle, mais globalement, c'est celle que les gens admiraient à la fin du 13e siècle,
Celle qui a
mis à
traversé
part
le temps.
le clocher neuf.
Alors, Philippe Frétinier, qu'est-ce que vous pensez justement de ces
Alors,
caractères
je veux
remarquables
quand
de la
même
cathédrale
faire
de
une
Chartres?
incise. Ce que j'ai dit, là, la discussion que nous avons eue précédemment, ça n'est pas du tout une charge contre votre livre, hein, que j'ai lu et que j'ai trouvé tout à fait raisonnable. Hein. Donc, ça n'est, non seulement il n'y a rien de personnel, mais c'est même pas contre votre travail. Hein. J'ai essayé de mettre les points sur les i. Maintenant, pourquoi effectivement il y a un tropisme sur cette cathédrale? En gros, tout ce que vous venez de dire est exact. Elle est même complète à plus de 90%. Pour que les auditeurs comprennent, vous avez tout à fait raison. C'est construit sur un laps de temps très très court. On a en plus des textes. Un texte, notamment un poème de Guillaume le Marchand, qui nous donne la date à laquelle les voûtes étaient terminées. Et donc, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent, Notre-Dame de Paroy, telle qu'elle est aujourd'hui, en gros, elle a été commencée 50 ans avant Chartres, et elle va être terminée bien après Chartres. Donc,
Oui, c'est tout à fait exact, oui.
c'est vraiment je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Maintenant, je crois que c'est d'une manière générale aussi la question du mystère. Par une tournure d'esprit qui m'est tout à fait étrangère, les gens ont besoin de ces fameux mystères, c'est-à-dire d'une explication extraordinaire, non rationnelle, qui conférerait un surcroît de légitimité, d'intérêt. Par rapport à ce que la science historique rigoureuse dit. Il y a des sujets qui portent ça d'ailleurs. Alors la cathédrale le porte tout à fait. Enfin, pourquoi elle intéresse autant de monde? Je crois que vous l'avez à peu près dit, donc je ne vais pas redire les choses que vous avez dites. Mais par exemple, bon, les Templiers, c'est pareil. On fantasme sur le trésor des Templiers parce que voilà, ça fait rêver. Bon, c'est difficilement
Oui,
compréhensible.
mais par exemple, Philippe Frétinier, pourquoi est-ce que Notre-Dame de Chartres suscite plus qu'aucune autre cet attrait des mystères, justement?
Ben, oui, encore une fois, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, il y a peut-être d'autres raisons dont il est difficile de mesurer l'importance dans cette aura que la cathédrale de Chartres a. Mais il y en a une première que je vois, je ne les cite pas forcément dans l'ordre d'importance, hein. C'est que Chartres n'est pas loin de Paris. Bon, Amiens est un peu plus loin, mais pas beaucoup plus. Mais Chartres n'est pas loin de Paris, et surtout pour les temps modernes, c'est-à-dire la seconde partie du XXe siècle qui vient de s'écouler, elle est sur le chemin entre Paris et les châteaux de la Loire. Donc, il y a énormément, enfin énormément, il y a beaucoup de touristes, parce qu'on a beaucoup exagéré le nombre des touristes qui visitent Chartres, mais c'est quand même pas négligeable. Donc, les touristes, notamment les touristes étrangers qui arrivent à Paris, qui vont vers les châteaux de la Loire, Chartres étant sur le chemin, ils s'arrêtent pour voir Chartres. La deuxième raison, c'est que Chartres, historiquement, au Moyen Âge, pourquoi on a une cathédrale aussi grande à Chartres? Les cathédrales de l'époque du gothique rayonnant, c'est l'époque de Chartres et d'Amiens, sont démesurées. Par exemple, la cathédrale d'Amiens est beaucoup plus grande que la population d'Amiens par rapport à la contenance que la cathédrale a. Alors, à Amiens, on peut se demander pourquoi. La raison, c'est cette course au plus grand, plus haut et tout ça. Chartres, ça, c'est différent. Parce qu'il se trouve que c'est un lieu de pèlerinage. Je pense que ça compte aussi, en tout cas
Oui, c'est très important le pèlerinage de
pour
Chartres.
les gens qui ont la foi, c'est très important. Et on est dans des sociétés à l'époque où finalement c'est un phénomène qui touche pratiquement toute la société. Et ça va être comme ça jusqu'aux Lumières, en gros, hein, pour simplifier. Il se trouve qu'il y a cette fameuse relique que pendant très longtemps, d'ailleurs, on n'appelait pas le voile de la Vierge, mais la Sainte
La
Tunique,
chemise de la Vierge,
la chemise de la Vierge ou la Sainte Tunique.
Oui.
Et donc, il y a même une entrée de serrure à la porte du porche nord par laquelle on rentre dans la cathédrale où l'entrée de serrure représente ce petit dessin d'une sainte tunique parce qu'on ne l'avait jamais vu dérouler. C'est à la Révolution qu'on s'est aperçu que c'était un long voile quand on a brisé le reliquaire. Et donc, circonstances. Comment dire, accentuant le prestige de cette relique, c'est qu'on dit que c'est Irène qui l'aurait offerte à Charlemagne, Irène de Byzance, hein, et donc c'est son petit-fils, Charles le Chauve, qui l'offre à la cathédrale de Chartres.
Oui, c'est ce qu'on raconte, effectivement.
Et je crois que ça aussi, ça a contribué à un prestige énorme. La preuve, c'est que la crypte de la cathédrale précédente, c'est-à-dire celle qui est construite par Fulbert, qui d'ailleurs a été une crypte semi-enterrée, comme souvent, par exemple Saint-Benoît-sur-Loire. Si vous allez dans l'église du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, vous verrez que le chœur est surélevé. Il y a d'ailleurs un exemple de chat à Chartres qui s'appelle
La crypte, on l'appelle l'église basse, d'ailleurs, à Chartres.
l'église Saint-Brice. Et donc, sous le chœur, il y a un martyrium semi-enterré avec la crypte autour. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des marches pour monter au chœur qui est beaucoup plus haut que la nef.
Radio Grand Ciel, 106,8 à Chartres.
Vous êtes toujours, chers auditeurs, à l'écoute de Histoire d'en savoir plus autour de la cathédrale, de son caractère exceptionnel, en compagnie de Christophe Ferré, auteur récent des Nouveaux Mystères de Chartres aux éditions Salvator, et de Philippe Frétinier, historien, spécialiste de l'histoire de l'art, d'abord et avant tout. Pour reprendre sur notre sujet de la cathédrale, il y aurait évidemment mille choses à dire. Cette cathédrale magnifique, qui suscite des passions, on l'a entendu tout à l'heure, qui suscite aussi des fascinations dans un peu tous les mondes, chrétiens, mais aussi ailleurs.
C'est le plus important, d'ailleurs.
Peut-être, d'ailleurs. Et Christophe Ferré, je voulais vous demander, notamment du point de vue de la vie intellectuelle, et notamment chez vos confrères écrivains, vous avez dans votre livre souligné à quel point beaucoup d'entre eux avaient aussi vécu des choses particulièrement fortes autour de la cathédrale, avait fait référence à la cathédrale. Alors, vous avez évoqué Huysmans, évidemment, qui a écrit La cathédrale. Dans votre livre, vous parlez aussi, par exemple, de Claudel, ou fait encore peut-être plus surprenant, et peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un petit peu là-dessus, de Proust, dont on peut prétendre parfois que La recherche du temps perdu s'inspire du livre de Pierre qu'est La cathédrale de Chartres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet un petit peu ?
Alors, les gens d'Eure-et-Loir le savent, Marcel Proust a passé une partie de son enfance à Illiers, devenu Illiers-Combray, et malgré une double origine, donc juive et catholique, Marcel Proust, sa mère était de confession juive, son père était catholique, Beauceron, Proust a toujours été fasciné par les deux religions, et à travers la religion catholique, il était fasciné par la cathédrale de Chartres et celle d'Amiens, les deux. Et il parle à de nombreuses reprises de ces deux cathédrales dans La recherche du temps perdu. Et sur Chartres, il écrit des choses absolument merveilleuses. Et il n'arrête pas de dire, alors c'est très difficile de résumer La recherche en trois mots, il n'arrête pas de dire qu'il a construit La recherche du temps perdu comme une cathédrale avec une crypte, qu'il est monté peu à peu vers le ciel, peut-être au sens laïque du terme pour lui, mais à chaque instant dans ce livre, on sent qu'il est fasciné par cet édifice absolument merveilleux.
Oui, alors il y a...
Il n'est pas le seul, évidemment. Voilà. Il n'est pas le seul. On ne va pas citer tous les auteurs fascinés par la cathédrale, parce que ça prendrait une heure. Peggy, Claudel, Julien Gracq, Huysmans, que je citais tout à l'heure. Il y a de très nombreux auteurs, croyants ou non, qui ont été subjugués par cette cathédrale magnifique. Victor Hugo, alors ça je l'ai découvert en écrivant ce livre, Victor Hugo est venu après l'incendie de 1836, l'incendie du toit, et il a écrit des pages absolument magnifiques sur la cathédrale de Chartres, après s'être intéressé à celle de Paris.
Oui, bien sûr. Parce
qu'on voilà, donc c'est une cathédrale non seulement religieuse, mais aussi littéraire.
Oui, bien sûr. Alors, religieuse, littéraire, c'est aussi un monument d'architecture, Philippe oui. Frétinier, puisqu'il a des caractéristiques très particulières de ce point de vue-là.
Oui, je vais revenir parce que ça fait partie, il m'est venu là depuis tout à l'heure, d'état d'idée sur le prestige de Chartres. Alors, les écrivains y ont ajouté. Il y a un écrivain qui manque dans vos citations. Ça n'est pas un reproche, croyez-le bien. Mais,
il en manque beaucoup. Hein.
C'est
un sujet d'un nouveau livre.
C'est un scoop.
Ça serait formidable que vous fassiez ça. Mais il y a entre autres Peggy. Puisque là,
qui est cité dans le livre.
J'en parle. Hein.
Oui, bien sûr, oui.
Oui, non, non, je dis pas que vous n'en parliez pas, mais là, je ne l'ai pas entendu ici. Ah ben, excusez-moi, j'ai dû avoir...
j'ai dû avoir une petite
absence. Parce qu'en plus, on est au lendemain du pèlerinage de Pentecôte, qui vient d'avoir lieu, là. Et c'est tout à fait... Bah, c'est le pèlerinage de Peggy, hein. Il passe par la vallée de Chevreux,
oui,
c'est le même itinéraire. Hein.
Et, ça, j'en parle assez longuement dans le livre, oui.
C'est
il est parti de la vallée de Chevreuse en 1912, deux ans avant sa mort, avec Alain Fournier d'ailleurs.
Oui, donc c'est pas le seul, mais parce qu'il y a le pèlerinage des étudiants aussi. Enfin bon, bref. Déjà, Il faut dire une chose très importante, c'est que pendant longtemps, la cathédrale de Chartres était vraiment très sombre. Elle était noire de crasse, les vitraux l'étaient aussi. Et c'est très récent que la cathédrale soit inondée de lumière, suivant le symbolisme de la lumière dont parle d'ailleurs Suger à Saint-Denis, hein, donc ce n'est pas nous qui inventons ça. Et c'était si vrai que ça ajoutait une aura de mystère. On cite ce mot de Napoléon quand il serait rentré dans la cathédrale. En gros, un athée serait mal à l'aise ici. Hein. Bon. Donc, je crois que ça a joué aussi. Puis d'un seul coup, là, on s'aperçoit d'un monument très lumineux et ça renouvelle complètement l'approche du monument. Alors oui, c'est un tournant dans l'histoire de l'architecture gothique. C'est pas le premier parce que le chantier actuel de Paris nous apprend que le premier grand chantier qui est un tournant dans l'histoire de l'architecture gothique, c'est Notre-Dame de Paris, notamment à cause de l'utilisation du fer. Je ne vais pas m'étendre sur une discussion technique, mais Chartres, c'est un second tournant, puisque à partir de Chartres devient vraiment un plan type des cathédrales qui vont suivre, notamment Amiens. C'est la voûte quadripartite généralisée, c'est un usage raisonné des contreforts est très bien utilisé. À Paris, je rappelle que les arcs-boutants à double volet ont été ajoutés au XIVe siècle, ils ne sont pas d'origine, parce que justement il y avait des problèmes de maîtrise. Et donc, c'est vraiment le plan type qui va... on peut d'autant plus se permettre de dire ça qu'il y a une autre cathédrale absolument sublime que j'aime beaucoup, qui est Bourges, qui est construite pratiquement en même temps que Chartres. Et c'est un plan très, c'est un plan très différent. Donc, il y a deux plans possibles.
Il n'y a pas de transfert.
Et c'est le plan de Chartres qui va s'imposer, absolument sans transept. C'est un système à cinq vaisseaux. Hein. Il y a la nef centrale et deux bas-côtés de chaque côté, comme d'ailleurs les basiliques romaines, hein, qui sont le plan d'origine des édifices chrétiens. C'est une façon de pouvoir utiliser un modèle antique pas connoté religieusement. Hein. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose qui a assis ce prestige, c'est que c'est le prestige intellectuel de l'école cathédrale de Chartres au XIIe siècle.
Oui, très important.
Des écoles cathédrales, des écoles cathédrales, il y en a eu pratiquement autour de toutes les cathédrales. C'est pas une spécificité chartraine. La spécificité chartraine, je vais pas citer tous les grands, mais on pourrait parler d'Yves de Chartres, de Bernard de Chartres. Enfin, on pourrait en citer beaucoup. Donc, à commencer d'ailleurs dès le XIe siècle par Fulbert, hein. Il y a eu d'éminents intellectuels, on les appellerait comme ça aujourd'hui, qui ont fait rayonner le prestige de Chartres. On venait de très loin pour étudier à Chartres. Donc c'est tout ça qui fait que Chartres, c'est vraiment un tournant majeur. C'est un composite de ce que vous avez dit, de ce que je viens d'ajouter, qui fait que Chartres, elle est à part.
C'est celle que nous trois préférons forcément, parce que nous sommes un peu chauvins par ailleurs, mais elle brille donc par...
Pas seulement. Moi, je connais beaucoup de cathédrales dans le monde qui sont très belles. Oui. Et pour moi, aucune de la splendeur de Chartres.
Oui, puis il y a un miracle, je pense que vous allez être d'accord avec moi aussi. Ça devrait inspirer les architectes contemporains qui multiplient les gestes d'orgueil en faisant ce qu'on appelle des gestes architecturaux. C'est que la façade de Chartres telle qu'elle est aujourd'hui, elle s'échelonne du XIe au XVIe siècle. Et miracle, de cette façade composite, de cette espèce de palimpseste, finalement...
Il y a une impression d'unité.
Vous m'enlevez les mots pour le dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une harmonie incroyable, malgré ce patchwork d'époque. Ça aussi, je pense que ça frappe consciemment ou inconsciemment tous les gens qui arrivent...
Alors, je vais rajouter une chose qui va un peu dans le même sens, c'est que la cathédrale a été construite il y a environ 800 ans, et en 800 ans... on n'a procédé à aucune restauration d'envergure, si on met à part le toilettage récent.
Oui,
et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire.
Tout à fait.
Donc, elle n'a pas été touchée par la guerre, mais elle n'a pas été touchée non plus par l'usure du temps.
Non.
Alors que la plupart des monuments modernes, je ne vais pas les citer, ça ne serait pas gentil pour leurs architectes, la plupart des monuments modernes, au bout de 10 ou 20 ans, il faut obligé de les refaire. Oui, en grande partie, parce qu'ils ne tiennent pas debout, ou parce qu'il y a eu des défauts divers et variés. C'est un modèle d'architecture, un monument qui reste debout 800 ans sans qu'on ait à le restaurer en profondeur, c'est quand même très rare.
Oui. Par exemple, Beaubourg, on va procéder à la deuxième rénovation depuis son ouverture. C'est quand même incroyable.
Alors, ne parlons pas de la Grande Arche de la Défense.
Moi, je propose qu'on transforme Beaubourg en auto-silo, comme ça, on sera tranquille.
Alors, je pense qu'on ne va pas faire la liste des bâtiments modernes, ni les comparer à la cathédrale. Je voudrais aussi, au-delà de ce que la cathédrale présente, au-delà de ce qu'elle montre, au-delà de ce qu'elle a de tout à fait remarquable et de visible, il y a aussi des choses invisibles, voire même des choses qu'elle ne montre pas, qui sont tout à fait intrigantes aussi. C'est-à-dire que, par exemple, Christophe Ferré, dans votre livre, vous faites part de quelque chose que je n'avais absolument pas en tête. Par exemple, et je crois que peu de gens l'avaient en tête, sauf à être des spécialistes de la cathédrale, c'est que le Christ est extrêmement peu représenté. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Alors, c'est pas le Christ est très représenté.
Non, la croix, pardon. Oui, la crucifixion.
Le crucifix à l'époque du Moyen-Âge est peu représenté par rapport aux représentations des siècles suivants. Le crucifix est peu représenté sur les portails et sur les vitraux. Alors, on le voit quand même. Pourquoi ? Parce que le Christ à Chartres est représenté d'abord en gloire. Sur le portail royal notamment, c'est le Christ de la résurrection. C'est pas le Christ de la mort, c'est le Christ de la résurrection. C'est le Christ éternel. Et le crucifix n'apparaît qu'au second plan. Alors moi, il y a des lecteurs qui m'ont dit « Oui, mais on voit beaucoup de crucifix à Chartres, certes, mais la plupart des crucifix qu'on voit aujourd'hui ont été créés après le Moyen-Âge, 17e, 18e, 19e, 20e siècle, et encore récemment, on a installé une croix à la croisée du transept. Donc, c'est aussi quelque chose de très caractéristique à Chartres. Hein. Le Christ est vivant, le Christ n'est pas mort, mais il y a de très nombreuses représentations du Christ et de la Vierge, évidemment. Mais... à chaque fois, il s'agit de représentations vivantes, de représentations qui symbolisent l'éternité et la gloire, et non pas la mort, j'insiste là-dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ou il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, y compris parmi les historiens avec qui j'ai discuté. Sur les portails, par exemple, vous avez très peu de représentations de la croix, sur les 9 portails. Voilà, mais ils sont magnifiques, ils sont rayonnants, Rodin disait que les sculptures de Chartres étaient les plus belles du monde. Et c'est pas rien de dire ça quand on est un aussi grand sculpteur que Rodin.
Alors pour ce qui est la question des représentations de la croix, vous avez en grande partie raison, bien que quand même on trouve des croix dans la cathédrale de Chartres. Et surtout, vous avez aussi raison en disant que c'est le Christ ressuscité, c'est le Christ de la parousie. Donc c'est très très important. C'est une notion qui apparaît déjà même avant même la croisade des cathédrales. C'est un tournant. Je dirais que c'est un tournant quasi théologique, en tout cas sans aller jusqu'à la théologie, mais symboliquement c'est très fort. Mais il y a de nombreuses représentations quasi déguisées de la croix. Par exemple, au portail nord, dans les figures de l'Ancien Testament, au porche nord, au porche central, vous avez notamment représenté Abraham avec son fils Isaac. Et quand on regarde Isaac, il a les mains liées en croix. La représentation de Jérémie, c'est un nimbe avec la croix dans le nimbe. Hein. Donc, c'est un nimbe crucifère.
Donc, voilà, alors, sujet de la mort, il faut ajouter qu'il n'y a pas de tombeau dans la cathédrale.
Oui, alors ça, c'est parce que c'est une basilique. C'est une basilique mineure, mais c'est parce que c'est une basilique.
Hein. Oui. Et donc, dans la plupart des cathédrales françaises, il y a des tombeaux.
Oui, mais parce que ce ne sont pas des basiliques. Hein. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas de tombeau à Chartres, c'est le fait que ça soit une basilique mineure. Alors, ce n'est pas le sujet de préciser ce qu'est une basilique majeure ou mineure, mais ça, c'est ce qui explique ce que vous dites. Hein. Donc, mais ce que vous dites sur les représentations du Christ, c'est tout à fait juste, mais on peut le généraliser à toutes les cathédrales du Moyen Âge. Hein. Donc,
Oui, c'est l'époque où on représentait peu la croix, mais on le voit vraiment à Chartres parce que les sculptures et les vitraux, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, sont quasiment restés les mêmes. Ils n'ont pas changé depuis les 12e et 13e siècles.
Alors, c'est une bonne transition parce que je crois que ça serait quand même dommage de parler de la cathédrale de Chartres sans évoquer un tout petit peu les vitraux, dont on sait à quel point ils ont marqué, dont on sait à quel point ils sont exceptionnels. Est-ce que vous avez là quelques mystères à relever encore? On sait que, par exemple, ces vitraux ont été protégés pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont été démontés, puis remontés.
Alors, ils ont été protégés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Dans la deuxième, au début de la Deuxième Guerre mondiale, ils devaient être tous transportés très loin. Et comme on n'a pas eu le temps, une partie a été mise dans la crypte, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Mais au cours des deux guerres, la cathédrale n'avait pas de vitraux. Heureusement, il n'y a pas eu de bombardement massif à Chartres. Il y en a eu un, mais pas sur la cathédrale. Mais le fait de les avoir retirés les aurait protégés des bombardements. Malheureusement, il y a beaucoup de cathédrales qui ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme Rouen, par exemple. Pendant la Première, Reims a beaucoup souffert. Chartres n'a heureusement pas été touchée.
Elle a été épargnée. Oui, Philippe Frétinet, vous vouliez.
Oui, alors pour les vitraux, juste une petite précision. Ils ont été démontés avant même la déclaration de guerre. Hein. Ils ont été
Oui,
démontés
absolument.
en 39.
Là, vous parlez, oui, 39, oui.
Et on a décidé de les répartir dans trois endroits. Le premier, vous l'avez cité, c'est la crypte de la cathédrale. Le deuxième, c'est le château de Villebon à 30 ou
On aurait dû en
40 km.
parler à Combray, oui.
À 30 ou 40 km de Chartres, hein, enfin peu importe la distance exacte, mais pas très loin de Chartres. Et puis la troisième partie est partie dans un train à destination d'un château dans la Dordogne. Alors, il y a deux choses incroyables pour la petite histoire à propos de ça, c'est que tout ça était soi-disant fait dans le plus grand secret. Et le jour où le train est parti vers ce château de la Dordogne, il y a un grand journal allemand. Je crois savoir lequel, mais je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas sûr de moi. Mais il y a un grand journal allemand qui titrait le soir même que les vitraux de Chartres étaient dans le château en Dordogne en question.
Ah
Ce
oui,
qui est
donc c'était pas
incroyable
secret.
aussi, c'est que le train a été bloqué en gare de Berchère, je vais préciser après, suite à une attaque allemande de l'aviation allemande. Or, le Berchère en question, c'est Berchère-les-Pierres, c'est de là d'où viennent les pierres de la
D'où viennent les
cathédrale.
pierres de la cathédrale,
C'est
oui.
incroyable quand même, hein? Donc
Ah oui,
là,
c'est une
moi,
incroyable coïncidence. Mais
voilà,
les vitraux ont été sauvés. Non.
voilà. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mystère, mais si jamais les gens veulent voir un signe, ils peuvent en voir un dans ça. Et puis je pense que c'est pour ça aussi que je suis toujours réticent à l'idée de mystère, parce que finalement, les vitraux, dans les développements symboliques qu'ils apportent, apportent des choses aussi satisfaisantes, même selon moi, plus que d'aller du côté de la magie ou du mystère. Je vais en citer deux très brièvement. Il y a le vitrail du Bon Samaritain, où contrairement à la règle, en apparence en tout cas, on ne doit raconter qu'une histoire dans un vitrail, et là il y en a deux, et on s'aperçoit à la fin de la lecture du vitrail qu'en fait ces deux histoires sont une seule et même histoire. Et puis le vitrail de la Rédemption, où c'est au lieu de le lire de bas en haut, on le lit de haut en bas. Hein? Voilà, donc
Absolument.
voilà, je pense que les mystères, si mystères il y a, ils sont plutôt du côté de la richesse symbolique du contenu des vitraux et des statues, puisque j'ai mentionné les statues du Portail Nord, mais j'ai fait court, mais on aurait pu développer très longuement.
On peut en parler pendant des heures, effectivement. C'est un
Voilà.
sujet, les vitraux et les statues, c'est un sujet infini.
Oui,
Une vie
absolument.
entière ne suffit pas à les connaître, la
Voilà.
totalité.
En tout cas, écoutez, bien le moment de conclure cette émission. Je vous remercie tous les deux. Évidemment, on n'a pas du tout fait
Merci
le
à
tour de la
vous.
cathédrale. Merci Christophe Ferré, merci Philippe Frétinier. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler à nouveau. En tout cas, il ne fait pas de doute que sur les ondes de Radio Grand Ciel, il y aura encore bien des émissions sur la cathédrale qui continuent à fasciner. Peut-être que son principal mystère est celui des émotions qu'elle suscite, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs. En tout cas, merci à vous. Donc je rappelle, Christophe Ferré, que vous avez écrit un livre sur les nouveaux mystères de Chartres, 28 chapitres qui traitent de questions diverses et variées autour de la cathédrale. Certaines polémiques, toutes passionnées en tout cas. Merci Philippe Frétinier. Donc vous allez continuer, quant à vous, les émissions sur la cathédrale, puisque vous en avez déjà produit quelques-unes. Et je ne doute pas que ça continue. Encore en tout cas, merci à tous les deux et à très bientôt, j'espère.